Bien, chers amis, nous allons ouvrir le deuxième livre des rois, comme hier soir, pour relire les sept premiers versets de 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, nous relisons les sept premiers versets qui servent donc de base à notre réflexion. Je lis donc, de Rois 6, verset 1er, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux, arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Dans le Nouveau Testament et dans le livre des Actes des Apôtres, livre des Actes au chapitre 2, Actes chapitre 2, les versets 41 à 47, Actes 2, 41 à 47, ceux qui acceptèrent ou qui accueillirent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Simplement, au chapitre 4, les versets 8 à 13 encore. Chapitre 4, versets 8 à 13. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, des hommes quelconques, simples, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les quatre roues motrices de l'Église locale. Nous avons, hier soir, considéré la première de ces quatre roues motrices. En nous appuyant, nous l'avons dit longuement hier soir, en nous appuyant sur un texte qui ne concerne pas l'Église, qui a ses propres enseignements directs, mais qui est profondément suggestif quant à la marche, au fonctionnement d'une Église en marche, que nous examinons donc durant ce week-end. Quatre roues motrices, quatre pneus aussi, devant être gonflés à la bonne pression en vue d'un voyage à la gloire de Dieu, pour une bonne tenue de route, en quelque sorte. Première de ces quatre roues motrices, priorité aussi, l'Église locale, une communauté de fils des prophètes. Nous l'avons dit, communauté de fils des prophètes, d'hommes et de femmes assises aux pieds des prophètes que sont les quelques 40 porte-paroles, rédacteurs inspirés de Dieu qui nous ont laissé ce livre absolument extraordinaire. Alors nous nous sommes penchés hier soir sur la définition du ministère prophétique. Nous avons essayé de brosser rapidement le portrait du prophète pour mieux saisir ensemble le privilège qui était celui des fils des prophètes de pouvoir s'asseoir aux pieds de ces hommes de Dieu. Et nous avons donc terminé en soulignant que, paradoxalement, une église locale dynamique, une église locale en marche, était d'abord une église bien assise. Nous pourrions dire bien enracinée, communauté à l'écoute de Dieu dans sa parole. Avec tout ce que cela signifie comme dimension d'intimité, de proximité, de rapports étroits, de relations de famille, d'identification, de ressemblance, d'imprégnation. Une communauté assise devant Élisée, Dieu et salut, qui annonce la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous avons enfin, dans notre conclusion, souligné combien cela était important, puisque l'Église locale est appelée à prophétiser au sens large de ce terme, à être porte-parole de Dieu, sentinelle de Dieu, radar de Dieu, guetteur de Dieu, sonar de Dieu, ambassadeur de Dieu dans le monde. L'impact d'une Église locale ayant cette caractéristique est extraordinaire. Et tout cela s'apprend à l'écoute de Dieu. Et en disant dans notre conclusion hier soir que l'Église locale est appelée à prophétiser, nous préparions la présentation de la deuxième roue motrice. Et pour cela, nous allons relire le début de ce texte de 2 Rois 6, où il nous est dit, donc au verset premier, c'est là la démarche des fils des prophètes qui s'adressent à Élisée et qui lui disent « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop étroit pour nous. » Et ils ajoutent « Allons jusqu'au Jourdain et là, nous prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Alors, il est intéressant de voir comment d'autres versions de la Bible traduisent. J'ai sous les yeux la fameuse version dite du semeur, où il nous est dit, un jour, les membres du groupe des prophètes dirent à leur maître Élisée, « Regarde le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. » Le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Une autre version dira, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. C'est vraiment le langage moderne. Hein? C'est le langage moderne, nous lisons parfois cela dans des circulaires, dans des annonces concernant le programme d'une vie d'église locale qui annonce, voilà, notre local est devenu trop petit. Il y a 15 jours, j'étais dans une église de la région parisienne qui précisément tenait ce genre de langage, notre local est trop petit, et qui vraiment craquait de tous côtés, et qui est en plein programme de recherche d'une salle, d'achat d'une salle pour pouvoir aller plus loin. L'église locale, communauté explosive, contagieuse, envahissante. J'ai dit explosive. Je n'ai pas dit implosive. Trop d'églises locales implosent. C'est-à-dire, hélas, se déchirent, se divisent. Et hélas, trop souvent, non pour des questions de soucis, de fidélité à Dieu et à sa parole. Nous savons, la Bible le dit de manière très claire, il est des séparations qui sont nécessaires. Y compris dans l'Église. Lorsqu'une Église dévie au point de devenir infidèle sur des questions absolument essentielles, que ce soit en matière de doctrine, que ce soit en matière de vie morale, il est évident qu'il arrive un moment où une séparation devient nécessaire, l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 11, parce qu'il faut que la vérité soit manifestée, qu'elle soit visible. Mais il existe trop d'implosions, de ces divisions destructrices qui font de terribles dégâts, parce que liées, hélas, au péché, au mauvais caractère, à l'esprit de parti, à toutes sortes d'extrémismes destructeurs. Donc ce n'est pas du tout dans ce sens que nous parlons donc d'une crise de logement, d'une maladie bénie de la croissance dans ce texte, une sorte d'essaimage. Et c'est important parce que l'Église se doit d'être équilibrée. Certains pouvaient, à l'issue de la réunion d'hier soir, se sentir heureux dans leur peau parce que peut-être aiment-ils être assis. Ils attachent beaucoup d'importance à ce fait d'être assis. Et ils sont tentés d'en oublier l'importance de la marche. Et notre enseignement est là pour nous équilibrer aussi, pour nous montrer que lorsqu'on se nourrit, lorsque l'on est nourri par le Seigneur, dans ses bons pâturages, il importe aussi de faire de l'exercice pour éviter toutes sortes de maladies, à commencer par les problèmes d'embonpoint. Lorsqu'une église est assise, elle doit aussi, à partir de là, se mettre en marche. Lorsqu'une église est enseignée, elle doit aussi passer à l'action. Et nous pourrions prendre ainsi une quantité impressionnante de tentations au déséquilibre qui guettent nos églises. Je pense à ce congrès de serviteurs de Dieu présidé par l'évangéliste bien connu Moody, au cours duquel un des participants déclara que depuis 5 semaines, il vivait continuellement, entre guillemets, sur la montagne. Et Moody de l'arrêter dans son témoignage et de lui dire un instant, cher frère, au cours de ces 5 semaines, combien de personnes avez-vous amené au Seigneur ? Je ne sais vraiment pas. En connaissez-vous au moins une ? Je crains que non. et maudit de terminer en disant « Vous vivez trop, mon frère !» Personne ne doit vivre sur les sommets s'il lui est impossible d'atteindre les âmes perdues. Ça ne veut pas dire pour autant que nous aurons obligatoirement quelqu'un qui se tournera vers le Seigneur Jésus pendant ces 5 semaines. Ça ne se passe pas toujours ainsi, on le souhaiterait. Mais en tout cas, vous voyez l'enseignement que l'évangéliste Moody voulait donner à cet ami. Attention à une sorte de mysticisme sentimental qui nous couperait des réalités de ce monde qui meurt sans Jésus-Christ. Communauté explosive, communauté, dirons-nous, qui vise la multiplication. Communauté qui vise la multiplication. Un homme de Dieu de notre temps a écrit ceci: nulle église centrée sur elle-même, c'est-à-dire absorbée par ses propres affaires d'église locale, ne peut prétendre être remplie par l'Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Par conséquent, une église remplie de l'Esprit est une église missionnaire. L'église locale n'est pas un club. Elle n'est pas un club de gens sélects. Elle n'est pas une sorte de club introverti. Elle n'est pas un club, les gens, ses membres, pourraient être tentés de se considérer comme des gens religieux, qui apprécient de faire ensemble des activités religieuses, qui paient leurs cotisations, qui jouissent en retour de certains privilèges. C'est pas ça l'église locale. Quelqu'un dit que l'église est la seule société coopérative au monde qui n'existe que dans l'intérêt de ses non-membres. Et j'ai là aussi un extrait de livre très percutant. Le véritable christianisme, selon lui de la Bible, n'est pas une religion qui prône la paresse, la suffisance, qui encourage les aises, l'égoïsme et la fuite. Au contraire, elle dérange profondément nos habitudes tranquilles et l'assurance derrière laquelle nous nous abritons. Elle est explosive. Sa force centrifuge nous oblige à quitter le terrain de nos soucis mesquins pour nous plonger dans le monde de Dieu, celui dans lequel Dieu nous demande de témoigner, de servir. À nous de trouver les moyens pratiques, individuellement et à travers notre église locale, pour traduire dans les faits notre consécration à Dieu. L'église locale n'est pas un ghetto. Elle n'est pas une société secrète, et comme j'aime à le dire, ses locaux ne sont pas des bocaux, et sa fermeté n'est pas à confondre avec fermeture. Le prince des prédicateurs Spurgeon a écrit ceci: l'église de Christ n'est pas un hôtel de luxe, où des gentilshommes chrétiens se prélassent chacun dans l'aise de sa suite particulière. Il s'agit d'une caserne où des soldats s'assemblent pour se former à la guerre. Elle n'est pas une association consacrée à l'admiration et à la consolation mutuelle, mais des troupes sous leur bannière en marche pour prendre d'assaut les forteresses de l'ennemi, remporter des victoires pour Christ et ajouter des provinces au royaume du Rédempteur. Martin Luther l'a dit de belle manière aussi. Le règne de Jésus-Christ doit être dressé en plein milieu de tes ennemis. Refuser ce fait, c'est refuser d'être de ce royaume et vouloir passer sa vie entouré d'amis, assis parmi les roses et les lys, loin des méchants, dans un cercle de gens pieux. Ne voyez-vous pas qu'ainsi vous blasphémez et vous trahissez le Christ? Si Jésus avait voulu faire comme vous, qui donc aurait pu être sauvé? C'est un langage bien percutant, et Martin Luther savait dire les choses comme il fallait à cet égard. L'église locale fait partie d'un organisme vivant, le corps de Christ. Le corps. avec cette notion de cellules qui, si elles sont en bonne santé, doivent se multiplier et se reproduire. Vous savez certainement qu'une cellule biologique en bonne santé peut se reproduire au moins, en moins d'un an, 120 milliards de fois pour créer un être humain. Et vers l'âge de 15 à 17 ans, il y a 400 milliards de cellules, toutes issues de la cellule originelle. Et on comprend pourquoi Dieu a comparé l'Église, de la manière la plus claire qui soit, à un corps. L'Église locale vise donc continuellement la croissance, la multiplication, à partir de chaque cellule vivante qu'est le disciple de Christ. Et j'ai été très frappé dans mes lectures de constater que ce qui évoque la croissance de l'Église au travers des siècles ont tendance généralement à utiliser le même type de langage. Par exemple, le mot « contamination » ou le mot « contagion ». J'ai là un extrait d'un livre qui raconte par le détail l'évolution de l'Église au cours du IIe siècle, disons de l'an 95 à l'an 197. Et l'auteur dit ceci: « La rapide expansion du christianisme, en contraste avec la décadence des religions païennes, a surpris, parfois atterré les païens. Le monde gréco-romain ne s'est pas converti au culte de Mitra ni de Cybèle, il ne s'est pas converti au judaïsme, malgré la propagande déployée, mais il s'est converti à l'Évangile. Moins de 2 siècles après la mort de Christ, les chrétiens occupent dans l'Empire une position indéracinable. À la veille de la paix constantinienne, donc au début du IVe siècle, leur nombre est estimé à 5%, voire même 10% de la population de l'Empire. » J'ai sous les yeux l'extrait d'une lettre de celui qui fut à cette époque gouverneur de Bithynie et du Pont, c'est-à-dire une province de l'actuelle Turquie, et qui écrit à l'empereur Trajan ceci: « Voici une foule de gens de tout âge, de toute condition, de l'un et l'autre sexe, qui sont appelés devant la justice ou le seront. Ce ne sont pas seulement les villes, ce sont les bourgs et les campagnes que la contagion de cette superstition a envahi. » Voyez le langage qu'utilise Pline le Jeune dans son rapport. D'ailleurs, il est tellement embarrassé qu'il demande des instructions à l'empereur. Qu'est-ce que je dois faire face à une telle situation et toutes les crises qu'elle amène avec elle? C'est Paul Claudel qui aimait à dire: il ne faut pas que les enfants reçoivent la religion, il faut qu'ils l'attrapent de leur entourage comme la rougeole. Et Charles Studd, qui a été le fondateur de ce qu'on appelle la WEC, l'action d'évangélisation mondiale, a dit ceci: la foi, c'est comme la variole, ça s'attrape. Je pense à Dominique Lapierre, auteur d'un certain nombre de livres remarquables et qui vient d'écrire une sorte d'autobiographie, et qui, dans son livre « Plus grand que l'amour », écrit ceci: « La foi ne s'octroie pas, elle s'acquiert par contagion. » Encore un dernier exemple, tiré d'un livre remarquable, « La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire », et donc au IIe siècle. Voilà ce qu'écrit cet auteur, qui n'est pas du tout un évangélique, qui est un historien français, qui écrit ceci: les chrétiens étaient tous frères et s'appelaient ainsi. Leur réunion prenait souvent le nom d'agape, qui en grec signifie amour. Ils s'aidaient constamment les uns et les autres, sans fracas ni hauteur. De communauté en communauté, c'était une incessante circulation de conseils, de renseignements, de secours matériels. Et tout cela était autrement vivant que les confréries païennes. Et des chrétiens, combien devaient dire alors que leur religion est simple et pure? Quelle confiance ils ont en leur Dieu et en ses promesses! Comme ils s'entraiment et comme ils sont heureux entre eux! Et cet historien est en train de citer l'auteur que je vous citais tout à l'heure, Pline le Jeune. Voyez? C'est donc Pline le Jeune qui s'étonne, qui est bouleversé, que leur religion est simple et pure, quelle confiance ils ont en leur Dieu, en ses promesses, comme ils s'entraiment et comme ils sont heureux entre eux. Et notre historien de continuer, au IIe siècle de notre ère, assurément, cette joie évangélique n'inondait encore que de petits groupes isolés dans la masse de l'énorme cité de Rome. mais elle était déjà contagieuse. Et sans aucun doute, elle y avait commencé, à l'insu du plus grand nombre, de transformer des milliers d'existences. Et il continue ainsi. C'est un livre passionnant comme témoignage d'un historien non converti à Jésus-Christ, mais qui, dans son analyse, a pu vérifier ce fait. Elle vise la multiplication, elle est contagieuse, nous aurions pu et nous pourrions ajouter, mais sans vraiment passer beaucoup de temps à le développer, que cette église-là est extravertie. Extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Elle était introvertie hier soir, préoccupée de sa nourriture, de sa santé spirituelle, d'une saine relation avec le Seigneur, d'un bon enseignement. Et nous la voyons cet après-midi tournée vers l'extérieur. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain pour pouvoir tailler des poutres. Il faut aller là où sont les arbres si l'on veut pouvoir bâtir. L'action d'une église équilibrée s'effectue du dedans vers le dehors. Elle va là où se trouvent les gens. Et j'aime, en écho à ce mot d'un des fils des prophètes, « Allons jusqu'au Jourdain », faire résonner le célèbre « Aller » de Matthieu, chapitre 28, verset 19, n'est-ce pas ?« Allez, allez, je vous envoie, allez jusqu'aux extrémités de la terre et partagez ce beau message de l'Évangile. » Elle pénètre donc la vie de la cité par le témoignage de chacun de ses membres là où il est d'abord. Et il faut le souligner. J'ai sous les yeux les résultats d'une enquête qui date quelque peu, mais qui se vérifierait, j'en suis encore persuadé encore aujourd'hui, concernant la croissance de l'Église en France. On a constaté que 4 à 6% des membres actuels étaient admis suite à un programme de ce que j'appellerais des visites à froid, comme le colportage par exemple, les visites de maison en maison. 6 à 8% des membres actuels sont issus du travail pastoral proprement dit. 2 à 4% sont issus du programme de l'Église, de ce qu'on organise en commun dans la vie de l'Église. Moins de 1%, écoutez bien, moins de 1% est issu des campagnes et des efforts d'évangélisation. Mais 70 à 90% des membres de nos Églises se sont donnés à Jésus-Christ à cause de l'influence des chrétiens sur la famille et sur les amis. Ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner tous les efforts, mais ça veut dire qu'il faut donner priorité là où est la priorité. Et la priorité, c'est le témoignage de chacun des membres là où il est d'abord. Vous savez quelle est la devise de Coca-Cola ? Coca-Cola qu'on peut voir absolument partout dans le monde. J'ai été frappé au Sénégal de voir de la pub Coca-Cola absolument partout, n'est-ce pas? C'est impressionnant, où que vous alliez. La devise de Coca-Cola, c'est penser mondialement, mais agissez localement. Pensez une vision mondiale, mais pensez localement, là où vous êtes. Si chacun pense là où il est, et met un panneau Coca-Cola, le monde entier sera couvert de panneaux Coca-Cola. Mais je trouve que c'est une devise qui convient remarquablement à l'Église de Jésus-Christ quand elle a compris l'importance de cette deuxième roue motrice pour une Église en marche. Alors nous aurions pu longuement développer le fait que dans son évangélisation, l'Église locale est multicolore, encore une autre image. Nous pourrions prendre toute une étude simplement pour aborder le caractère multicolore de l'évangélisation de l'Église locale. Mais ce que je veux essentiellement souligner cet après-midi, c'est qu'il n'y a pas une seule forme d'évangélisation. Certains pensent que l'évangélisation ne consiste qu'à faire de la distribution ou du colportage. Alors qu'il y a une variété absolument incroyable, et je dirais qui ne cesse jamais, de méthodes, d'approches de l'évangélisation. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres différents les uns des autres, que Dieu est un Dieu créateur, qu'il est capable de nous inspirer des approches bien spécifiques, des formes adaptées au cadre local, à l'arrière-plan culturel, au type de population, au métier que nous exerçons, à notre propre tempérament, à l'âge que nous avons, aux forces qui nous animent, suivant que nous sommes jeunes ou moins jeunes. Tout cela, Dieu le prend en compte pour nous montrer comment nous pouvons évangéliser. Mais je voudrais surtout, parce que le texte nous invite dans cette direction, je voudrais surtout cet après-midi évoquer ce qui est une grande préoccupation de Dieu concernant l'évangélisation et qui, selon mes propres constatations, est un grand problème dans l'évangélisation de l'Église aujourd'hui. Vous avez remarqué que, après avoir proposé à Élisée d'aller jusqu'au Jourdain pour donc essaimer, pour construire plus grand, et avoir reçu l'aval d'Élisée, le feu vert, qui leur dit « Allez !» Matthieu 28, « Allez !» Ces fils des prophètes ne sont pas satisfaits pour autant. Ils ont le feu vert, mais ils ne partent pas comme une flèche, hein, en disant, voilà, il nous a dit oui, allez, on part. Pas du tout. Au verset 3, l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Consent à venir avec tes serviteurs. Et nous avons même la réponse d'Élisée. J'irai. Tout simple, j'irai. Et nous verrons bien entendu, notamment demain matin, combien il était important qu'il soit là, puisqu'ensuite il y a eu crise. Et pour moi, ce petit verset 3 suggère une des plus grandes vérités concernant cette dynamique de l'Église locale en marche dans son évangélisation explosive. Je veux parler de l'importance de son label de garantie. Vous savez, on parle beaucoup des labels aujourd'hui. On veut avoir des produits qui soient garantis, qui aient une marque qui indique que ce sont de bons produits, qui n'ont pas été trafiqués. Vous savez, hein, tout le culte presque qui régit ce monde de la consommation. Cela veut dire pour moi que l'Église locale veille d'une manière toute spéciale à la qualité de son évangélisation. Or, je constate qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'évangélisation. On a pris conscience, beaucoup plus que dans un certain passé, de l'importance de l'évangélisation. Et on organise toutes sortes de choses dans le domaine de l'évangélisation, des campagnes, toutes sortes d'efforts, à l'échelle locale, régionale, nationale, internationale. Mais je constate qu'au même moment, on a perdu de vue l'importance de la qualité de l'évangélisation, de ce qu'on pourrait appeler l'éthique, la morale de l'évangélisation. Cela veut dire qu'il y a dans les Écritures un enseignement sur l'importance d'une évangélisation de qualité. Certains pensent qu'il suffit de parler du Seigneur pour être bien avec lui, pour satisfaire sa conscience. Seigneur, j'ai rendu témoignage, je suis un gars bien. J'accomplis ce grand commandement de l'évangélisation. Et on peut ainsi fuir en réalité des exigences de qualité. L'Église locale n'évangélise pas sans Jésus-Christ. Ça vous apparaît banal? Savez-vous qu'il est extrêmement facile d'évangéliser sans Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église locale, par exemple, ne présente pas d'abord son clocher, son étiquette, son union d'Église, sa fédération. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne travaille pas d'abord pour sa chapelle. Comprenons-nous bien. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le souci d'une intégration dans l'Église. Quand quelqu'un se convertit, c'est pas pour être laissé dans la poubelle à la sortie de la maternité parce qu'on ne sait pas comment l'introduire dans une famille. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la première préoccupation, ce n'est pas d'amener quelqu'un chez nous. Ça, c'est un comportement sectaire. On veut gagner à son mouvement. Non. Pas du tout. Il est important de présenter d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans son message. Présenter d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans son message. Elle présente Jésus-Christ dans la personne de chaque disciple de Christ engagé. Ce qui rend le témoignage évangélique crédible, c'est la présence de Christ dans ma vie personnelle et dans notre vie d'Église. Vous avez remarqué, nous avons lu Actes 4, 13, 14, un miracle extraordinaire vient de se produire. Des gens s'interrogent. Et dans leur interrogation, ils scrutent et ils se rendent compte que ces idiots, ça c'est ce que le texte original dit, mais le mot idiot n'avait pas le sens qu'il a pris aujourd'hui, ces gens simples, ces gens sans instruction, ces gens du commun peuple, ils ont quand même une particularité en commun. C'est que tous, les uns et les autres, dans cette équipe, a vécu aux côtés du Seigneur Jésus. On les associe à la personne de Jésus-Christ. Je suis très frappé par une chose dans le Nouveau Testament concernant l'évangélisation. Je suis très frappé de constater qu'il y a très peu d'impératifs dans le Nouveau Testament concernant l'évangélisation. Vous avez très peu de passages dans lesquels il nous soit dit « Allez, évangélisez, allez, 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 non !» C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, généralement, on revient toujours au même texte de Matthieu, chapitre 28. Nous avons lu le texte d'Acte 2 tout à l'heure. Ce qu'on appelle la quadruple persévérance de l'Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Quadruple persévérance. Est-ce que vous voyez l'évangélisation? On s'attendrait à ce que l'évangélisation soit dans ce programme et que nous ayons une quintuple persévérance. Or, ce n'est pas le cas. Comme si le Seigneur voulait nous dire qu'en réalité, l'évangélisation s'exprime dans cette quadruple persévérance. L'évangélisation existe là où existe un enseignement des apôtres de qualité. Parce qu'il est intéressant de voir que quand on évangélise dans le Nouveau Testament et même dans le livre des Actes, les termes qui sont parfois utilisés sont les termes enseignés. On enseigne, on partage la parole de Dieu, pas n'importe quoi, on partage la parole de Dieu. Quand une église locale vit une vraie communion fraternelle, une vraie solidarité, un véritable amour réciproque, un véritable partage, une véritable mise en commun. Mais c'est un extraordinaire témoignage d'évangélisation. Les gens sont touchés dans un monde où on est si peu solidaire, où chacun va son chemin, où on écrase si facilement l'autre pour obtenir des avantages. Mais quel témoignage qu'une église locale dans laquelle il y a cette entraide, comme nous l'avons lu dans ce témoignage, cet historien, quant à l'église du IIe siècle. Et puis, une église locale dans laquelle on partage la scène. Dans cette relation d'amour réciproque. On partage ce repas de joie. C'est encore un témoignage extraordinaire. Quel message d'évangélisation dans la proclamation du contenu de la scène. Et puis quand une église locale prie, quand des hommes et des femmes, des jeunes, voire des enfants, prient tout simplement dans leur langage, de tout leur cœur, dans une relation d'amour avec Dieu. Mais rien ne parle plus à ceux qui ne connaissent pas Dieu que cette manière de pouvoir s'adresser à lui si simplement, si librement. Je dirais que l'évangélisation s'exprime dans cette quadruple persévérance et elle en est un fruit normal, elle en est une expression inévitable. Et jusqu'à un certain point, j'aimerais souligner que nous devrions mettre davantage l'emphase, l'importance, sur ce que sont les chrétiens. On dit, on fait de l'évangélisation. Je dirais que jusqu'à un certain point, ça me gêne. Quand on utilise l'expression « faire l'amour hein, ».« Faire l'amour ». Comme si c'était quelque chose presque d'artificiel, n'est-ce pas ? Nous sommes évangélisation d'abord. Nous sommes, nous, personnellement, chacun d'entre nous, nous devrions être une évangélisation en marche. Nous sommes, je dois être, un message vivant par la qualité de ma vie personnelle et de ma vie relationnelle. Ça commence par là. 1 Jean 4,12, hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, etc. J'ai là aussi un texte remarquable concernant les croyants, justement, de ces tout premiers siècles. Et l'auteur écrit ceci, « L'enthousiasme contagieux qui animait ces gens si différents par leur arrière-plan personnel, leur sexe et leur culture, était confirmé par la qualité de leur vie, leur amour, leur joie, la transformation de leurs habitudes. » Le changement progressif que l'on pouvait remarquer dans leur caractère donnait du poids à leur message. Leur vie communautaire, bien qu'elle fût loin d'être parfaite, ce dont les écrivains chrétiens se plaignent constamment, était cependant suffisamment différente et éloquente pour attirer et éveiller la curiosité et donner le désir de se joindre à eux. Quelqu'un fait remarquer que la notion populaire, selon laquelle la première obligation de l'Église est de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, est fausse. Sa première obligation est d'être digne spirituellement de le répandre. Et c'est juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir 40 ans de vie chrétienne pour atteindre cette dignité. Mais je dirais simplement que ma dignité, c'est la vie de Jésus-Christ en moi. C'est la place qu'il occupe dans mon quotidien. Une femme missionnaire au Japon dans les années 30, qui a eu un beau ministère d'intercession, a écrit ceci, « Le plus grand besoin du monde païen est certainement ma sanctification personnelle. » C'est là le premier besoin du monde païen. Si vous lisez par exemple la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, Comment les croyants y sont-ils présentés? Vous savez qu'au cœur de cette deuxième aux Corinthiens figure un texte que nous aimons beaucoup. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ et nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous connaissons bien ce passage. Mais nous oublions parfois que la deuxième aux Corinthiens nous présente d'abord le disciple de Christ au chapitre 2, verset 15, comme un parfum de Christ. Et puis au chapitre 3, verset 3, comme une lettre de Christ. Et puis au chapitre 3, verset 18, comme un miroir de Christ. Et c'est seulement au chapitre 5 et au verset 20 que le disciple de Christ est présenté comme un ambassadeur. D'abord, parfum, lettre, miroir. Comme pour dire, si vous voulez que votre travail d'ambassadeur ait un impact sur le monde, soyez d'abord parfum, soyez d'abord lettre, soyez d'abord miroir de Christ. Quelqu'un écrit ceci, nous ne pouvons pas être tous des apôtres, mais nous devons tous être des épîtres, apôtres, épîtres, des lettres d'amour adressées par Jésus au monde. Nous citions Moody, les chrétiens sont la seule Bible pour beaucoup de gens dans le monde, et plusieurs d'entre eux ont bien besoin d'être révisés. Hélas, hélas. Dieu ne nous ordonne pas de faire du témoignage, mais d'être les témoins de Christ. L'évangélisation n'est pas simplement une activité, crie quelqu'un, c'est un mode de vie. Quand nous perdons ce fait de vue, en nous contentant de proclamer, les gens que nous gagnons au Seigneur n'apprendront pas à se reproduire spirituellement. Importance d'une authentique évangélisation qui soit une évangélisation de qualité à cause d'une vie de qualité. Voilà le témoignage d'un homme de Dieu, Ignace d'Antioche, qui a été martyrisé à cause de sa foi en l'an 110 et qui parle d'évangélisation. Et il écrit aux chrétiens d'Éphèse, « Donnez-leur au moins la leçon de vos exemples. À leurs emportements, opposez la douceur. À leur jactance, l'humilité. À leur blasphème, la prière. À leurs erreurs, la fermeté dans la foi. À leur caractère farouche, l'humanité. Sans jamais chercher à leur rendre le mal qu'ils vous font. Montrons-nous vraiment leurs frères par notre bonté. Efforçons-nous d'imiter le Seigneur. » Et ce que nous avons souligné ici est extrêmement important. J'ajoute d'ailleurs, avant d'aller plus loin, cette petite anecdote de Spurgeon qui écrivait ceci. « Quand j'étais à l'école, nous dessinions des choses comme des maisons, des chevaux et des arbres, et nous avions l'habitude d'écrire le mot « maison » sous le dessin de la maison, le mot « cheval » sous le dessin du cheval. Sinon, certaines personnes auraient pu se tromper et prendre la maison pour un cheval. Alors, il y a des gens qui devraient porter une étiquette autour du cou pour montrer qu'ils sont chrétiens. Sinon, nous pourrions nous tromper et les prendre pour des pécheurs. Avoir une éthique dans notre évangélisation. Si nous avions une optique biblique juste de l'évangélisation, qui part de notre qualité de vie personnelle et de notre qualité de vie d'église, et là nous y viendrons demain matin dans notre conclusion, eh bien cette optique biblique va beaucoup influencer notre manière de partager l'évangile. C'est Albert Camus qui a dit ceci, il y a deux sortes d'efficacité. L'efficacité du typhon et l'efficacité de la sève.
Et en fonction de notre vision de ce qu'est véritablement l'évangélisation, nous allons avoir une évangélisation typhon ou une évangélisation sève. J'ai pu faire la différence d'une manière toute particulière lors de ce fameux cyclone Hugo, qui, à la fin des années 80, a produit des dégâts énormes dans la partie nord de la Guadeloupe. J'étais allé en Guadeloupe quelques mois auparavant, j'y suis retourné tout de suite après ce cyclone, et je me souviendrai toute ma vie de l'arrivée en avion au-dessus de cette île. Quand je me suis penché pour regarder par le hublot et avoir un peu une idée générale de ce qu'était devenu le nord de cette île. Quel bouleversement! Cette île devenue brune, complètement arrasée, mais brûlée par ce terrible cyclone. Ou d'ailleurs, toutes les maisons, vous voyez, c'était une île passée à nu. On pouvait se rendre compte alors de l'importance de la population dans cette île. Puis je suis revenu, je crois, l'année suivante. Et bien entendu, je me suis empressé à l'approche de l'atterrissage de regarder pour voir ce qu'était devenue cette île. Et elle avait retrouvé sa magnifique parure, sa verdure. On ne voyait plus bien des maisons. La force, la puissance, l'efficacité de la sève était présente de manière extraordinaire. Efficacité du typhon, destructeur. Efficacité de la sève. Oh, cela me rappelle une expérience personnelle vécue en 1970. Je venais de commencer un ministère, donc en Bretagne. Je n'étais pas encore marié, j'allais me marier d'ailleurs cette année-là. J'étais très très peu connu dans cette province. Je dis cela à cause de la suite de ce que je vais raconter. Et à l'issue d'un grand rassemblement régional, le lundi de Pentecôte, donc réunissant toutes les églises évangéliques de Bretagne appartenant à la même pastorale, je devais partir en Suisse. Et j'ai donc simplement signalé que depuis la ville de Saint-Brieuc, je devais me rendre à Rennes pour prendre un train pour la Suisse. Et les amis organisateurs ont dit « Écoute, on va s'occuper de toi et on va te trouver une voiture allant de Saint-Brieuc à Rennes pour que tu n'aies pas besoin de prendre un train ou un autobus pour t'y rendre. » Et donc, à un moment donné, on m'a mis en présence d'une famille qui se rendait à Rennes, où elle habitait, et on m'a simplement mis dans la voiture. Il n'y a pas eu spécialement de présentation, je me suis retrouvé à l'arrière de cette voiture, et la voiture était pleine, nous sommes partis, et à ma grande surprise, ça ne m'est arrivé qu'une fois, mais j'en ai un souvenir très marquant. À ma grande surprise, les amis qui étaient dans la voiture se sont mis en demeure de m'évangéliser. Et je n'ai pas pipé mot. J'aurais pu dire, écoutez, je suis tout jeune serviteur de Dieu à plein temps dans telle ville, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, j'ai donc écouté et acquiescé tout au long de ce qu'il racontait. Et je suis reconnaissant d'avoir fait cette expérience. Parce que lorsque je les ai quittés à Rennes, je ne leur ai pas fait l'affront de leur dire ce que je faisais. Parce que peut-être que ça les aurait quand même gênés à quelque part. Ils l'ont sans doute appris après, mais je n'étais plus là pour le voir. Mais j'en ai tiré tout de même une conclusion. C'est que si je n'avais pas connu Jésus-Christ, je ne sais pas du tout si j'aurais eu envie de lui appartenir. Parce qu'il manquait précisément cette qualité de l'évangélisation. Je n'ai eu droit, pendant les 100 kilomètres séparant Saint-Brieuc de Rennes, qu'à un réquisitoire extrêmement sévère au sujet du monde. Oh, le monde! Oh, que les gens sont méchants! Je n'ai jamais découvert la beauté de Jésus-Christ. Et Dieu m'a parlé de cette manière, sur l'importance de la qualité de notre évangélisation. Il y a l'évangélisation de la chair, l'évangélisation qui part du moi. Il y a l'évangélisation de l'esprit. Il y a l'évangélisation de Christ en moi. Il y a une évangélisation qui enfante ce que j'appellerais des Ismaélites. Vous connaissez l'histoire d'Abraham qui cède à Sarah au bout de 10 ans d'attente de ce fils de la promesse, fils de la grâce. Et Abraham qui passe donc par une relation avec la servante Agar pour hâter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est ainsi que Ismaël, l'ancêtre des peuples arabes, vient au monde. Et vous le savez, Ismaël a été tout au long de l'histoire, encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais, depuis ce temps-là, une terrible épine dans le pied d'Israël. On peut faire une évangélisation de la chair, une évangélisation de l'impatience, une évangélisation de l'effort propre, une évangélisation sans éthique biblique, une évangélisation du système D, ou une évangélisation dans laquelle on force, on veut absolument obtenir du fruit. Ça ne va pas assez vite. Alors on utilise des systèmes D. Et on obtient des Ismaélites qui se joignent à l'église locale et qui ensuite posent des problèmes dans l'église locale. Parce qu'ils sont les enfants de l'effort propre. Parce qu'il n'y a pas eu de mûrissement. Parce que nous sommes mal pris. Nous n'avons pas attendu patiemment l'heure de Dieu. Notre témoignage n'a pas été peut-être ce qu'il aurait dû. Écoutez ceci. Je ne vous dis pas quel est l'auteur. Je vous le dirai peut-être tout à l'heure. Écoutez ça. De nos jours, beaucoup de gens, y compris dans les milieux évangéliques, supposent que pour attirer les foules, il convient de les inviter à des spectacles. Films, représentation théâtrale, sketch, mime, festival de musique, etc. L'exemple des gestes symboliques auxquels les prophètes ont eu recours peut justifier certaines de ces tentatives. Je me réjouis aussi de tout cœur des conversions qui se produisent à cette occasion. Je reste cependant un peu perplexe face à cette méthode ou tendance. D'abord, je ne vois pas que l'Église primitive ait eu recours à cette méthode. Les foules du premier siècle étaient au moins autant que les nôtres avides de scènes dramatiques, de jeux du cirque, de performances sportives. Les apôtres n'ont pas cru devoir donner des gages au goût du jour. Je crains que parfois, sous prétexte d'évangélisation, trop de croyants ne cèdent tout simplement au désir de participer en bonne conscience à des fêtes mondaines. Bien entendu, j'ai pris soin de ne pas vous livrer le nom de l'auteur de ce texte. Parce que dans l'esprit de certains d'entre nous monte immédiatement la pensée « Oui, mais ça c'est un extrémiste de droite, comme on dit, un conservateur qui est opposé à toutes les formes modernes d'évangélisation et qui est du matin au soir en train de casser du sucre sur les dos des évangéliques qui veulent travailler. » Et c'est vrai qu'il existe des professionnels de la dénonciation. Je me réjouis de ce que ce ne soit pas l'un d'entre eux. Mais je dirais un homme de Dieu équilibré par excellence qui s'appelle le professeur Jules Marcel Nicole. Et je me réjouis qu'il n'y ait pas que ceux que l'on est tenté d'appeler extrémistes de droite qui disent ou qui écrivent, dans un très bon livre par ailleurs, des vérités de cette encablure, de cette dimension-là. Et je me demande si on réfléchit bien à la qualité de notre évangélisation aujourd'hui. Est-ce que nous voulons enfanter des Ismaélites ? Ou est-ce que nous voulons enfanter des Isaacs, les fils de la grâce, les fils et filles de l'attente patiente de l'heure de Dieu? 15 ans encore se sont écoulés après la naissance d'Ismaël, jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse et que dans cette relation miraculeuse, dans ses effets entre Abraham et Sarah, naissent cet enfant de la grâce, cet enfant de la promesse, qu'était Isaac. Écoutez ceci. Si je veux savoir si un homme est chrétien ou non, je ne vais pas aller trouver son pasteur. Je vais aller trouver sa femme. Et c'est à elle que je le demanderai. Vous savez, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un peu plus de spiritualité à la maison. Si un homme ne traite pas bien sa femme, je ne veux pas l'entendre parler de christianisme. Pourquoi doit-il parler de salut dans la vie future s'il n'a pas le salut dans celle-ci? Nous voulons un christianisme qui pénètre dans les foyers et dans la vie quotidienne. La religion de certains me répugne fortement. Ils parlent d'une voix gémissante et prennent un ton religieux. Ils parlent de manière si spirituelle le dimanche que vous penseriez que ce sont de merveilleux chrétiens. Mais le lundi, ils sont très différents. Ils enlèvent leur religion en même temps que leurs habits du dimanche et vous n'en voyez plus rien jusqu'au dimanche suivant. C'est un extrait des meilleures pages de Moody. Un autre texte de Spurgeon, très intéressant aussi. Très souvent, les convertis nés dans les moments d'excitation ressemblent à ces insectes qu'engendre une journée particulièrement chaude et qui meurent au coucher du soleil. Je ne me réjouis pas de la religion qui nécessite ou crée un cerveau échauffé. Donnez-moi la sainteté qui fleurit sur le mont Golgotha plutôt que celle qui jaillit du Vésuve. Le zèle pour Christ le plus ardent s'accorde avec le bon sens et la raison. Les divagations, les rotomontades et le fanatisme proviennent d'un autre zèle, sans intelligence. Nous cherchons à préparer les hommes pour la douceur de la communion et non pour la camisole de force. Spurgeon dira ceci, si vous vous tenez à 500 mètres d'un homme et lui jetez l'évangile à la tête, vous le manquerez sûrement. Mais si vous allez près de lui, si vous lui saisissez la main avec chaleur et lui montrez que vous avez pour lui de l'affection, alors, par la bénédiction de Dieu, vous pourrez diriger ses pas sur le bon chemin. Qualité d'évangélisation liée à qualité de vie. Comme quelqu'un l'a dit, le disciple est appelé à être sel de la terre et non soude caustique. Je pense à ce témoignage, je vous donne un certain nombre de témoignages qui sont très parlants. Hudson Taylor, ce pionnier, ce missionnaire par excellence, cet homme de foi et de vision, qui avait coutume de dire « il y a une puissance énorme dans le contact ». Beaucoup de ces gens qu'il côtoyait dans l'évangélisation de la Chine ne sont pas propres. Et nous sommes tentés parfois de nous pincer le nez en passant près d'eux. Mais je crois que nous empêcherions toute bénédiction. Il y a un pouvoir étonnant, non seulement à approcher, mais encore à toucher ces amis que Dieu nous amène. À Chengdu, une pauvre femme, en entendant parler de la mort d'une missionnaire, disait « Quelle perte pour nous !» Elle me prenait souvent la main et me réconfortait tellement. Si vous mettez la main sur l'épaule d'un homme, vous exercez un pouvoir. Il y a quelque chose dans le contact, une puissance dont nous pouvons nous servir pour Dieu. Et dans un de mes livres, je donne cette citation anonyme, « La valeur d'une passion comme celle d'un feu se juge à la quantité de chaleur et de lumière qu'elle donne. Les fanatiques, comme les incendies de forêt, lancent de grandes flammes, mais détruisent tout ce qui est vert et tendre. Pour vivre passionnément, il faut se discipliner. Pour aimer avec force, il faut se lier par un engagement. La passion est inséparable de la compassion. » Évangéliser, oui. Vivre une vie d'église locale explosive, oui. Deuxième roue motrice d'une église locale en marche, oui. Mais que notre évangélisation explosive, multicolore, extravertie, ait cette marque d'authenticité par la qualité de notre relation avec Jésus-Christ, qui nous transforme dans notre vie de tous les jours, qui atteigne tous les compartiments de notre vie. Je ne suis pas un disciple de Jésus-Christ pendant un bon week-end ou un disciple de Jésus-Christ pendant un dimanche. Je suis disciple de Jésus-Christ 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis d'abord un message d'évangélisation parce que je présente d'abord Christ par ma vie. Et les paroles ne font que corroborer en quelque sorte, qu'appuyer le témoignage vivant, la présence vivante de Jésus-Christ en moi. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce que ce petit texte de 2 Rois 6 nous suggère. Merci pour cette précaution de ce fils des prophètes, tenant absolument à ce qu'Élisée accompagne l'équipe pour aller couper et bâtir. Seigneur, nous voulons évangéliser avec toi, dans ta volonté, non pas n'importe comment, pour tranquilliser notre conscience, faire nos bonnes œuvres, mais Seigneur, nous voulons que notre évangélisation colle avec notre vie, qu'elle ne soit pas en contradiction avec la manière dont nous vivons nos journées et nos nuits, avec la manière dont nous gérons notre budget, avec la manière dont nous conduisons dans nos relations avec les membres de nos familles, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec toute notre parenté, avec notre voisinage, avec nos compagnons de travail, les gens de notre quartier. Seigneur, travaille dans nos cœurs et donne-nous, durant cette nouvelle année de travail d'église, de veiller tout spécialement, non seulement à être une église contagieuse, explosive, extravertie, multicolore dans son évangélisation, mais par-dessus tout, aide-nous à veiller pour une évangélisation de qualité, vécue dans ton temps, à ton rythme, selon tes indications, de manière à ce que ne soient pas enfantés des Ismaélites, mais des fils et des filles de la grâce, des Isaacs, qui contribuent à une saine croissance de ton Église, à ta gloire, à un bon témoignage, lorsqu'à leur tour, ils iront vers d'autres pour parler de celui qui les habite. Seigneur, mets toi-même le sceau de ton approbation sur ce que nous avons partagé et aide-nous les uns et les autres à veiller dans ce domaine tout particulièrement, pour que ton Fils soit visible et soit glorifié en nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.